Merci beaucoup, Robert, toujours aussi excellent. Et on va demander à Rémi Slama de venir nous parler. Un jeune épidémiologiste, comme on les aime bien, décomplexé par rapport aux certains anciens épidémiologistes.
Bonjour, merci beaucoup au Réseau Environnement Santé et à la Mutualité pour l'organisation de cette journée sur une thématique qui est complètement au cœur de l'actualité. Alors ça a déjà été évoqué, les perturbateurs endocriniens, historiquement, on s'est beaucoup intéressé à leurs effets sur le développement et la fonction de reproduction, mais on sait que le système endocrinien est impliqué dans énormément de fonctions essentielles pour l'organisme, au-delà du développement et de la fonction de reproduction. On sait qu'il interagit avec le système immunitaire, avec le système nerveux, donc on s'attend à beaucoup d'effets potentiels, et ceux-ci ont été mis en évidence dans l'expérimentation animale. Et cette recherche sur les troubles du métabolisme en lien avec les perturbateurs endocriniens est relativement plus récente, et elle mérite effectivement un intérêt certain. Et la question donc que je vais aborder dans la lignée de l'exposé de Robert Baroucki, c'est d'essayer de réfléchir au niveau de preuve qu'on a sur le caractère obésogène des perturbateurs endocriniens. Alors, pour réfléchir à la causalité d'un impact sur la santé, on a, en termes d'expertise, le modèle de l'approche des expertises du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, le CIRC. Le CIRC, il définit des cancérigènes probables et des cancérigènes certains, et on pourrait faire un parallèle et parler d'obésogènes probables si jamais on a des indications suffisantes concernant l'impact de la substance sur le développement de l'obésité chez l'animal, mais qui ne seraient pas suffisantes pour des effets chez l'homme, et puis d'obésogènes certains si vraiment on arrive à un niveau de preuve très élevé chez l'humain, ou disons une quasi-certitude chez l'humain, une très bonne connaissance des mécanismes d'action de la substance chez l'humain. Et j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que la recherche fondamentale sur les mécanismes, tels que vient de nous la présenter Robert Baroucki, est vraiment importante aussi pour les études chez l'humain et pour la réglementation sur ces substances. Alors, pour déterminer si certains perturbateurs endocriniens peuvent être considérés comme des obésogènes certains, il faut donc répondre à la question de savoir s'ils sont obésogènes chez l'animal, si les populations humaines sont exposées, sinon c'est pas très intéressant, et le niveau de preuve concernant les données chez l'humain. Alors, très rapidement, concernant l'animal, puisque Claudine Junien et Robert Baroucki viennent d'en parler en détail, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de ces raccourcis en deux diapositives de ce qu'ils viennent de nous faire. Robert dit oui, mais il n'a pas encore vu les diapositives. Donc, on a beaucoup de travail, on a effectivement beaucoup de recherches chez l'animal. Essentiellement, je dirais, sur les perturbateurs endocriniens non persistants, tels que la famille des phénols, dont le bisphénol A, les phtalates, et qui, à la suite d'exposition durant la vie intra-utérine, mais aussi à d'autres phases du développement et dans l'âge adulte, mais je parlerai ici de la vie intra-utérine, montrent des altérations la croissance. Ici, vous avez l'exemple d'une étude chez le rat Sprague d'Olé, dans laquelle il y a une augmentation de la prise de poids chez les rats qui ont été exposés dans la période intra-utérine au bisphénol A, seulement chez les rats femelles, et chez les rats mâles, il n'y a pas d'effet de l'exposition unique au bisphénol A. Donc cette littérature qui est extrêmement riche, qui est complexe, comme ça vient d'être évoqué, elle nous dit que cet effet sur le développement des cellules adipeuses, le développement du surpoids et d'autres troubles du métabolisme, il existe dans certaines espèces animales, qu'il est complexe, c'est-à-dire que bien sûr ce n'est pas des relations d'effets monotones et qu'elles sont beaucoup plus complexes que ce à quoi on peut être habitué avec des polluants plus anciens ou mieux connus comme les polluants atmosphériques par exemple, que les effets observés bien sûr ne s'observent pas systématiquement, dépendent de la fenêtre d'exposition et aussi par exemple d'autres caractéristiques comme le sexe des individus exposés. Et puis on a un certain nombre d'éléments concernant les mécanismes d'action, et là encore de manière très raccourcie. La recherche fondamentale a mis en évidence que beaucoup des perturbateurs endocriniens peuvent interagir avec les récepteurs nucléaires. Il y en a, à ma connaissance, 48, et certains de ces récepteurs nucléaires, et aussi d'ailleurs certains récepteurs à la membrane des cellules dans certains organes, sont impliqués dans la régulation du développement des adipocytes, dans la prise de poids, dans les niveaux d'insuline, dans le métabolisme des lipides, ce qui nous fournit une indication sur les mécanismes par lesquels ces perturbateurs endocriniens peuvent perturber et augmenter le risque de développement de troubles du métabolisme. Et avec le développement des études sur l'épigénétique, on a aussi un mécanisme par lequel cet effet des perturbateurs endocriniens pourrait se manifester non seulement à court terme, mais aussi à long terme et éventuellement sur des générations, sur plusieurs générations. Alors, qu'en est-il des données chez l'humain ? Donc, la recherche chez l'humain, elle est nécessaire parce que humain et animal ne se comportent pas différemment du point de vue de la sensibilité aux substances. C'est déjà le cas entre deux espèces animales et ça vient d'être répété. Si on compare rats et souris, en gros, ils vont réagir de la même façon du point de vue de la sensibilité aux toxiques pour les trois quarts des substances, et puis pour un quart des substances, 25 substances sur 100, une espèce va être sensible alors que l'autre ne le sera pas. L'écart est bien sûr encore plus important si on essaye de passer du rongeur à l'humain. Donc si on veut vraiment des certitudes scientifiques, c'est très important d'aller chez l'humain, bien sûr. Vous avez ici un exemple. Il semble que ici ce singe ne réagisse pas de la même manière à un obésogène qui a été évoqué ce matin que l'enfant. Cette recherche chez l'humain qui est nécessaire, elle est aussi difficile puisque la durée de vie de l'espèce est beaucoup plus longue, et donc les études à mener quand on s'intéresse aux effets des expositions dans la phase du développement sont elles aussi beaucoup plus longues. Elles sont aussi plus difficiles parce qu'on ne peut pas chez l'humain en général faire d'expérimentation ou alors dans des situations très limitées, et donc on est dans des études observationnelles qui posent des enjeux en termes de qualité de la mesure de l'exposition et en termes de biais de confusion potentiels. Et puis elles sont aussi rendues difficiles par les effectifs nécessaires qui sont souvent assez considérables. Donc bien sûr le coût et la logistique est important, mais ce ne sont pas des obstacles insurmontables. Loin de là. Et schématiquement, on va avoir trois grands types d'études qui se sont attachées à décrire l'impact des perturbateurs endocriniens sur le développement de l'obésité. Des études de type écologique, des études transversales et cas témoins que je vais ici mettre un petit peu dans le même panier, puis des études de cohorte prospective. Les études écologiques, en gros, ce sont les données qui nous disent que voilà, les niveaux d'imprégnation à certaines substances ont augmenté depuis, disons, la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas de DDT dans les années 1920. L'imprégnation est beaucoup plus élevée aujourd'hui. Et elle met en parallèle ces tendances sur les expositions aux tendances au niveau des populations sur les troubles du métabolisme qui ont été évoqués tout à l'heure par professeur Badevant et Ackberg. Ces études, elles sont informatives, mais le niveau de preuve est relativement faible dans la mesure où il y a énormément de facteurs qui varient dans le temps en parallèle avec ces expositions aux perturbateurs endocriniens, et notamment le temps passé devant un écran, la proportion de personnes qui ont une activité physique modérée, et puis aussi l'apport, la ration calorique moyenne des sujets. Donc, ça nous fournit des indications, mais qu'il faut vraiment confirmer par des études qui sont plus fines et qui nous permettent de séparer l'effet de ces différents facteurs que je viens d'évoquer, qui sont notamment les études transversales, dans lesquelles on va schématiquement recruter des sujets, doser les niveaux de perturbateurs endocriniens et étudier le poids, l'obésité ou le diabète de manière simultanée, ou des études de cohorte prospective dans lesquelles on va recruter des femmes, si possible, pendant la grossesse, mesurer de façon fine les perturbateurs endocriniens, et puis suivre leur enfant suffisamment longtemps pour étudier si la courbe de poids diffère selon le niveau d'exposition aux perturbateurs endocriniens dans la vie intra-utérine. Alors, un exemple d'études transversales nous a été fournie récemment. Elle a été publiée dans le Journal of the American Medical Association l'an passé. Et elle concernait 2800 enfants américains qui étaient âgés de 6 à 19 ans. Et l'étude montrait que les niveaux de bisphénol A chez ces enfants, dosée dans leur urine, était plus élevée chez les enfants qui étaient en situation de surpoids ou d'obésité. Alors, une première explication ou un premier biais qu'il faut ici, en tout cas, chercher à écarter, c'est celui selon lequel, en fait, les niveaux de perturbateurs endocriniens et notamment de bisphénol A ne seraient que le reflet d'un régime alimentaire particulier. Et il est clair que, notamment, les enfants qui vont consommer, avoir une alimentation qui provient beaucoup de boîtes de conserve, qui est une source d'exposition au bisphénol A, vont avoir à la fois un niveau de bisphénol A élevé, vont peut-être avoir tendance à avoir un régime alimentaire un peu particulier, peut-être riche en calories, qui va être aussi un facteur de risque de surpoids. Donc c'est ce qu'on appelle un biais de confusion tout à fait classique, qu'il faut prendre en compte, que les auteurs ont cherché à prendre en compte, en fait, dans cette étude, en ajustant les résultats sur l'apport calorique. Il y a un autre problème dans ce type d'étude transversale qui est un petit peu plus subtil, c'est que le surpoids ou l'obésité peuvent modifier aussi le métabolisme, le stockage, l'élimination des xénobiotiques dans l'organisme et donc perturber les niveaux de bisphénol A qu'on va doser dans les urines. Et donc dans ce cas-là, c'est plus le bisphénol A qui pourrait causer du surpoids, c'est le surpoids qui va modifier les niveaux de bisphénol A mesurés par les épidémiologistes dans cette étude, et c'est donc un problème ici de causalité inverse qu'il faut réussir à écarter, qu'on n'a pas dans les études expérimentales chez l'animal parce qu'on ne mesure pas les niveaux circulants, mais on mesure vraiment ce qui est ingéré, et chez l'humain on a très peu de manières de savoir la quantité de bisphénol A qu'on ingère simplement par des questionnaires alimentaires simples. Et donc ça limite, disons, le niveau de preuve apporté par ces études transversales, et c'est la raison pour laquelle, dans la diapositive précédente, je les mettais à un niveau intermédiaire, et pour lesquels il faut, quand on a ces résultats qui montrent des associations entre bisphénol A et surpoids, aller au-delà et aller vers des études de qualité et qui apportent un niveau de preuve plus important. Et la manière d'avancer, c'est d'avoir des études dans lesquelles on va caractériser l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans la vie intra-utérine. Et ça correspond d'ailleurs au schéma de ces études à long terme chez l'animal que j'ai évoqué. Et puis, suivre les enfants suffisamment longtemps. Donc, ce sont les cohortes prospectives. Dans la mesure où on mesure les perturbateurs endocriniens dans la vie intra-utérine, même si le surpoids va modifier les niveaux de bisphénol A dans l'enfance, c'est pas le surpoids dans l'enfance qui peut modifier niveau de bisphénol A dosé chez la femme pendant la grossesse. Donc on n'a plus le problème de causalité inverse, on n'a pas de problème de biais de confusion si on mesure avec soin tous les facteurs pertinents tels que l'activité physique et le régime alimentaire. Alors de telles études ont été réalisées, elles existent, on a relativement peu d'exemples, et à l'heure actuelle, on peut considérer que les plus convaincantes concernent l'effet de perturbateurs endocriniens persistants, donc la famille des polluants organiques persistants, tels que le DDT ou son métabolite, le DDE. On a aussi quelques éléments concernant les composés perfluorés, chez lesquels un effet à long terme sur l'obésité a été rapporté, qui était observé uniquement chez les femmes, mais qui n'est pas forcément cet effet dépendant du sexe, n'est pas forcément étonnant étant donné la littérature animale. Et on a quelques éléments aussi, mais moins probants, je dirais, concernant la famille des PCB et leur impact sur le développement de l'obésité. Alors, il s'agit là de substances bien connues qui étaient utilisées depuis les années 40 comme insecticides, dont les effets ont été reconnus, mais qui n'étaient quand même pas initialement connus. Ici, c'est une photo d'un top modèle américain qui est en train de boire un soda dans un nuage de DDT pour vraiment convaincre tout le monde que c'est absolument sans danger. Et je me garderai de conclure quant à savoir si c'est le soda ou le DDT qui est l'obésogène le plus préoccupant ici. Concernant les perturbateurs endocriniens non persistant, on a encore très peu d'études et c'est pas suffisant pour avoir des conclusions fortes concernant un impact à long terme de cette exposition sur le développement de l'obésité. Donc là, je pense qu'il y a une étude qui vient de sortir en février dans IHP, notamment sur le bisphénol A, mais on est encore loin d'avoir une image claire qui nous permette de de conclure quant à cette nature obésogène. La difficulté principale, elle est liée à la nature non persistante de ces substances. Ici, vous avez un exemple d'un autre perturbateur endocrinien, les phtalates, et de leur niveau au cours d'une semaine. Vous voyez, c'est une échelle logarithmique, les variations sont extrêmement importantes. Or, la plupart des études publiées se limitent à un unique prélèvement et un unique dosage pendant la grossesse, ce qui est bien sûr très limité pour avoir une idée de l'exposition moyenne. Et les études en cours et qui sont en planification vont aller plus loin et vont bien sûr s'appuyer sur des prélèvements répétés qui vont nous permettre d'être beaucoup plus précis sur la caractérisation des expositions. Ça peut paraître un petit peu lent tout ça, mais ça fait même pas une dizaine d'années qu'on a des méthodes de dosage pas trop chères de ces substances dans l'organisme et qu'on a commencé à bien tirer toutes les conclusions des données toxicologiques. Donc pour revenir à mes questions de départ, oui, beaucoup de perturbateurs endocriniens ont été identifiés comme étant obésogènes chez l'animal, hein, notamment pour certains perturbateurs endocriniens non persistants. L'exposition dans la population humaine, elle est bien documentée, elle le sera encore mieux par les études de biosurveillance qui sont en cours. Et concernant les effets chez l'humain, on pourrait dire que oui, il y a une plausibilité à un effet obésogène pour les perturbateurs endocriniens persistants tels que la famille du DDT, mais pas encore concernant les perturbateurs endocriniens non persistants. Donc pour résumer ces résultats, les données sont bien avancées concernant la potentiel pour les perturbateurs endocriniens d'être aussi des perturbateurs métaboliques chez l'animal. Le tissu adipeux est sensible aux hormones, il produit aussi des hormones. On peut, je pense, considérer que chez l'humain, des perturbateurs endocriniens persistants tels que le DDT sont des obésogènes probables. En revanche, on ne peut pas dire ça concernant les perturbateurs endocriniens moins persistants, mais cet effet est plausible du fait des données chez l'animal. Donc du point de vue de la gestion du risque, puisque là je parlais uniquement des données scientifiques, là ça ne veut bien sûr pas dire qu'il faut rien faire. On est sorti, je pense, d'une approche où on attend d'avoir des certitudes scientifiques pour agir. Le gestionnaire aujourd'hui suit le principe de précaution qui fait que la gestion du risque se fait en parallèle de l'accumulation des connaissances scientifiques. Et je crois que si on veut que cette décision politique soit vraiment bien fondée, il faut continuer à poursuivre l'effort de recherche, à la fois au niveau fondamental, chez l'humain et sur l'environnement. Au niveau fondamental, continuer à poursuivre la compréhension fine des mécanismes d'action de ces substances, à étudier les effets transgénérationnels qui sont et qui prendront de toute façon énormément de temps à être bien caractérisés chez l'humain, l'effet des mélanges. Chez l'humain, il est nécessaire de poursuivre l'effort de mise en place de cohortes prospectives avec des mesures répétées des expositions aux perturbateurs endocriniens en mélange et une bonne caractérisation en simultané du régime alimentaire, de l'activité physique. Il est aussi important de réfléchir à cette question évoquée par Serge Herzberg des inégalités sociales, notamment d'exposition ou de sensibilité aux perturbateurs endocriniens. Je crois aussi qu'il serait très intéressant de développer davantage quelque chose qui est très peu fait, des essais d'intervention qui mettent et qui montrent de manière claire comment on peut limiter l'imprégnation des populations aux perturbateurs endocriniens pour lesquels on a des données concernant une nocivité possible chez l'animal. Et puis ce serait aussi très intéressant de suivre l'impact de la loi française sur le bisphénol A poussée par Gérard Bapt pour caractériser précisément son impact en termes d'exposition de la population française, des nouveau-nés, des femmes enceintes, des adultes, au bisphénol A. Et sur l'environnement, il est aussi important de réfléchir aux approches qui pourraient nous permettre de faire de la remédiation environnementale, c'est-à-dire de diminuer les niveaux de perturbateurs endocriniens plutôt, cette fois-ci persistants, tels que les PCB ou le DDT, dans notre environnement et dans la chaîne alimentaire qui continue à être une source d'exposition préoccupante de la population. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vous remercie beaucoup pour votre attention.